Les temps de louange sont tellement, tellement spéciaux. Hein? On a l'occasion de s'approcher de celui qui est vivant, de notre Dieu, notre Sauveur. Et ce matin, encore une fois, c'était tellement délicieux. Et d'autant plus que ce matin, il y avait deux cantiques qui étaient spéciales. Deux cantiques que Jésus voulait que je puisse au moins moi chanter, sûrement vous aussi. Il y en a un, pendant que j'étais assis, je disais, Seigneur, ça serait tellement le fun si on chantait ce chant-là ce matin. Puis à un moment donné, il est venu. Je le demandais au Seigneur parce que je savais que ce chant-là serait spécial pour une personne ce matin. Parce que c'est le cantique que Jésus lui a donné cette semaine pour toucher son cœur, prendre soin de son cœur. Vous ne savez pas c'est qui? Moi, je le sais. Et Jésus le sait aussi. Ce qu'il y avait de spécial, c'est que Jésus a dit, je vais t'en donner un à toi aussi ce matin. C'était celui de mon baptême. La nature parle d'un créateur. Mais je pense que je ne l'ai jamais chanté comme je l'ai senti ce matin. Le Seigneur, il nous connaît. Hein? Chacun de nous. Il sait ce que notre cœur a besoin. Pour prendre soin de notre cœur, parce qu'il nous aime. Il est comme ça, Jésus. Il nous connaît chacun de nous. Il nous aime. Et il veut nous rencontrer comme on chantait la chanson, c'est une relation avec Jésus. C'est ça que Jésus a pour chacun de nous ce matin. Ça serait tellement merveilleux si à chaque fois quelqu'un entendait parler de Jésus, ouvrait son cœur et laissait Jésus prendre soin de ce qui vit dans son cœur. Ben, c'est ce qu'il veut faire. Vous vous êtes peut-être déjà demandé, comme moi, pourquoi il y a tant de gens qui ne croient pas en Jésus comme étant le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le seul chemin pour aller au ciel. J'ai entendu l'Évangile pour la toute première fois en 1976, dans une province anglophone, en Ontario, et dans un champ de tabac. Eh oui, Jésus, il est dans le champ de tabac. Disons, il est capable de nous rencontrer dans un champ de tabac. Vous savez, ma première réaction quand j'ai entendu parler de Jésus, ça a été semblable à ceci. Je veux rien savoir de ta Bible et de ta religion. C'est la réponse que j'ai faite à celui qui voulait me parler de Jésus. Sa réponse a été, c'est pas une religion dont il est question. C'est d'une personne, Jésus-Christ. Et là, il m'a demandé, as-tu déjà lu la Bible? Comment peux-tu rejeter un livre sans l'avoir jamais lu? Es-tu au courant que la Bible parle de ce qui est en train d'arriver dans le monde? Ma deuxième réaction, ça a été la curiosité. Je vais toujours bien en avoir le cœur net. Et là, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Ma troisième réaction, ça a été, wow! Jésus, il n'est pas comme les autres. Je ne m'attendais pas à découvrir ça sur lui. je veux en savoir plus, et là, j'ai plein de questions. Ma quatrième réaction, ça a été la prière. Si tu existes vraiment, et puis que c'est vrai, ce que je lis, puis ce que cette personne-là me dit sur toi, montre-moi que tu existes, et que c'est la vérité que tu es mort sur la croix pour moi. C'est à peu près québécois. Cinquième réaction, ça a été « Wow, tu existes vraiment. Peux-tu me sauver et venir dans ma vie? » Et sixième réaction, ça a été « Wow, tu as pardonné tous mes péchés et tu es vraiment mort pour moi. » Je sais que tu vas revenir bientôt, puis ma famille et mes chums ne sont pas sauvés. Seigneur, peux-tu attendre un peu que je revienne au Québec pour leur parler de toi? Je suis convaincu qu'ils vont tous capoter et t'accepter eux autres aussi. Septième réaction. Aïe, aïe. Comment ça qu'ils veulent rien savoir? Moi, j'étais convaincu, je vous le dis, là, convaincu, un, que Jésus revenait, là, c'était très, 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 très bientôt. Donc, ma prière qui attend un peu. Et l'autre, c'était que aussitôt que je vais leur expliquer, je vais l'ouvrir la Bible, je vais leur montrer qui est vraiment Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il nous aime, qui il est, qu'ils vont tous dire « Wow! Où t'as trouvé ça? Comment se fait qu'on n'a jamais vu ça? Ben oui, on en veut nous autres aussi. Enfin! » On sait que Jésus nous aime et on le reçoit, nous aussi, comme sauveur. Vous savez, Marc montre malheureusement que beaucoup de gens ne répondent pas favorablement à Jésus, que ce soit son enseignement, son ministère, ses miracles et les nombreuses guérisons qu'il opère. On voit même dans le texte d'aujourd'hui, qui est Marc 6, une triste réalité de la vie, qui est celle-ci. L'incrédulité des hommes peut parfois restreindre la manifestation de la bonté de Dieu. Je le répète. L'incrédulité des hommes peut parfois restreindre la manifestation de la bonté de Dieu. Elle ne restreint pas la bonté de Dieu, mais elle restreint la manifestation de la bonté de Dieu. C'est-à-dire, à quel point Dieu veut être bon envers nous, à quel point Dieu veut venir à notre secours, à quel point Dieu veut se mêler de nos affaires, à quel point Dieu veut régler ce qui ne va pas dans notre vie. Et naturellement, la première chose étant notre relation avec lui, le péché qui vient nous séparer de Dieu et nous empêcher de connaître son amour. Jésus va ici, en quelque sorte, frapper le mur de l'incrédulité dans son propre patelin, chez lui, dans sa ville, pas natale, mais dans sa ville dans laquelle il a grandi, Nazareth. Et vous savez, ici, dans Marc 6, c'est en fait la deuxième fois que Jésus va dans sa ville où il a grandi et qu'il n'est pas bien reçu. La première fois, c'était après son baptême, au tout début de son ministère. Et là, ils ont voulu le lapider, ils ont voulu le tirer en bas d'une falaise, ils ont voulu le tuer, autrement dit, se débarrasser de lui, tellement ils étaient en colère contre lui à cause de ce qu'il venait cité dans les Écritures, qui étaient venus chercher leur nationalisme juif en laissant prétendre que Dieu peut bénir parfois davantage des non-juifs que des juifs, lorsque ces non-juifs-là se tournent vers lui et font appel à lui. Dieu n'est pas limité par la nationalité de quelqu'un. Et là, ils étaient en furie contre Jésus. Maintenant, Jésus, plus tard dans son ministère, revient ici, mais cette fois-ci, il vient avec ses disciples. Il revient dans cette ville où il a grandi, et là, le texte nous dit qu'il a été étonné de voir leur incrédulité à son égard. En dépit de sa réputation qui était incroyablement répandue à ce moment-là en Galilée, sachant tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait enseigné, et encore une fois, sa ville dans laquelle il a grandi ne le reçoit pas, et la majorité des gens sont incrédules. C'est possible ici que Jésus, justement, est venu avec ses disciples pour que ses disciples voient que malheureusement, la bonne nouvelle n'est pas toujours reçue favorablement. Il va les envoyer dans Marc 6, après avoir été faire une petite visite dans cette ville de Nazareth. Il va les envoyer deux par deux par la suite pour annoncer l'Évangile dans les alentours, dans les villes et villages d'alentour, en les préparant en disant, il va y avoir des endroits où vous ne serez pas bien reçus. Donc, n'ayez pas cette naïveté comme moi j'ai eu de croire qu'à chaque fois que vous allez ouvrir la bouche, à chaque fois que vous allez annoncer l'Évangile, à chaque fois que vous allez démontrer qui je suis et que je suis le Messie, que les gens vont avoir les bras grands ouverts. Même si certains ont pu être visités et avoir la bénédiction d'une guérison, d'une délivrance de démons et de toutes sortes d'emprises qui rendaient leur vie misérable et que les gens vont entendre parler de ces miracles, de ces grandes choses que je peux faire, il va y avoir encore des endroits où je ne serai pas le bienvenu. Ça existe. Et c'est peut-être un peu aussi le reflet ou des exemples de la parabole du semeur. Souvenez, Jésus a donné la parabole du semeur en disant, malheureusement, lorsque la semence est semée, elle ne tombe pas toujours dans de la bonne terre. C'est la réalité aussi de la vie. Qu'est-ce que ce texte, ce matin, peut nous enseigner? Eh bien, j'espère que par la grâce de Dieu, ce matin, on va réaliser que l'incrédulité, malheureusement, est justement un obstacle et comme un mur qui peut nous empêcher de goûter à la bonté de Dieu. Mais qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'espoir. Parce que même s'il peut y avoir de l'incrédulité, ce n'est pas obligatoire qu'elle demeure, qu'elle persiste. Autrement dit, il y a de l'espoir même pour les incrédules, même pour mon incrédulité, parce que Jésus aussi sait que l'incrédulité n'a pas toujours la même ampleur ou la même densité ou la même dureté qui peut être présente dans le cœur de quelqu'un. On va prier ensemble ce matin. Seigneur Jésus, ce matin, on veut venir devant toi encore une fois parce que tu es vivant, parce que tu es vrai, parce que tu connais la lutte qui peut faire rage dans ce monde, dans la réalité dans laquelle nous vivons. La justice n'habite pas encore sur cette terre. Ton royaume, Seigneur, n'est pas encore en train d'être existe. Seigneur, tu vois même aujourd'hui en Haïti, ce peuple qui était tellement durement éprouvé, de toutes sortes de manières, et récemment avec tout ce qui se passe au niveau de catastrophes naturelles. Et aujourd'hui, ils sont en élection. Et Seigneur, tu vois comment il y a souvent de la corruption, de la tricherie. Et ça, Seigneur, ce n'est pas au bénéfice. Mais Seigneur, toi, tu es capable de manœuvrer, même à travers des choses injustes. Et on voudrait certainement penser à eux aujourd'hui et prier pour eux, pour que dans ta bonté, dans ta grâce, Seigneur Jésus, tu puisses permettre à ce que la personne qui sera élue, malgré toute la magouille et tout ce qui peut faire rage présentement, que ta main, Seigneur, puisse intervenir pour donner un break à ce pays, à ce peuple durement éprouvé. Et je sais, Seigneur, que beaucoup de cœurs se tournent vers toi en dépit de ces catastrophes, et peut-être même à cause de ces catastrophes. Seigneur, tu n'es pas insensible, autant à eux qu'à nous, et à ce que chacun de nous peut vivre dans nos vies personnelles, nos vies de famille, et la réalité dans laquelle notre propre pays est. Seigneur, ce matin, peux-tu disposer nos cœurs pour qu'on entende ta voix? Pour que toi, Seigneur, tu puisses utiliser ta parole, ce qu'on a ici dans Marc 6, et que ça puisse, Seigneur, faire quelque chose pour chacun de nous. Du moins, Seigneur, tu connais les cœurs de ceux que tu veux rencontrer ce matin. Et j'aimerais te demander que ton esprit puisse agir librement à la gloire de ton nom. Amen. Alors, juste dans le texte d'avant, on avait vu des choses extraordinaires qui s'est passées dans le ministère de Jésus. Des gens qui ont eu la foi, comment que la foi est venue rencontrer leurs besoins, comment que Jésus a pu toucher leur vie. Et ici, maintenant, on arrive au chapitre 6, et je vais lire, j'ai le chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 31-32. Donc, c'est une bonne portion. Je vais lire une certaine partie. Et il y a surtout la première partie que j'aimerais me concentrer dessus ce matin. Alors, le verset 1 nous dit ceci au chapitre 6. « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, qui est Nazareth. Ses disciples le suivirent. » Donc, cette fois-ci, comme je disais tantôt, il est avec ses disciples et non pas seul. Au verset 2, « Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, parce que c'était sa coutume, il aimait à chaque jour du sabbat d'aller dans la synagogue et de profiter de l'occasion pour enseigner un texte des Écritures. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés encore et disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? » Donc, ils sont en train de réfléchir. Ils sont perplexes. Et c'est sûr que vous allez voir un peu pourquoi. Parce que ça continue au verset 3. Ils se disent, « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José ou Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Après tout, c'est sa ville dans laquelle il a grandi, donc sa famille est encore présente. Et on sait que ses propres frères, entre autres, ne croyaient pas en lui. Eux non plus n'étaient pas ouverts à Jésus en tant que Messie. Et là, ça rajoute ceci, « Et il, en parlant de Jésus, et Jésus était pour eux une occasion de chute. » D'autres versions disent, « Et voilà pourquoi il, ici en parlant des Juifs, trouvait en lui un obstacle à la foi. » Ou encore, « Et cela les empêchait de croire en lui. » Et ils étaient choqués, scandalisés à son sujet. Qu'est-ce qui les scandalisait? Qu'est-ce qui était une occasion de chute pour eux? Qu'est-ce qui les empêchait de croire en Jésus? c'était que il était celui qu'il avait connu, Jésus de Nazareth. OK? Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et verset 6. Et il s'étonna de leur incrédulité, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Et là, c'est là qu'ensuite, au verset 7, ça dit, « Alors, il appela les douze et se mit à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur fit des recommandations, allez dans les endroits. Si on vous reçoit, restez là, prêchez la bonne nouvelle. Si on vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds, puis un jour, ça va être un témoignage contre eux. » C'est-à-dire, vous êtes venus vers eux, ils ne vous ont pas reçu, restez pas là, perdez pas votre temps, je pourrais dire ça comme ça, il y a tellement de choses à faire, tellement d'endroits à visiter, vous, faites juste de secouer la poussière de vos pieds, laissez ce qui s'est passé là, et repartez à neuf, allez dans un nouvel endroit, s'ils vous reçoivent, annoncez-leur l'Évangile, s'ils vous reçoivent pas, continuez. Alors, ils sont partis comme ça, ils ont reçu, ils ont été à des différents endroits, et on voit que, si vous venez à la fin, parce que là, il va avoir du verset 14, aller jusqu'au verset 29, tout l'épisode concernant Hérode. Et là, c'est pendant que les disciples sont partis comme ça en campagne, deux à deux, prêchant la bonne nouvelle, tout ça, là, Hérode entend parler de Jésus, entend parler de qu'est-ce qui se passe en son nom, des miracles et tout ça. Et là, Hérode lui-même a une opinion sur Jésus et on voit que son opinion est fausse. Et là, on voit aussi d'autres personnes. Mais là, ici, on vient au verset 30, et là, ça dit, pour revenir à l'histoire que les apôtres sont partis deux à deux, au verset 30, ça dit ensuite, après l'histoire d'Hérode, « Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. » Et là, ensuite, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Tellement que les besoins étaient grands, tellement que les gens voulaient venir pour entendre aussi parler de l'Évangile. Et là, c'est là qu'ils sont partis, ensuite dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Donc, Jésus ne laisse personne indifférent, même Hérode, qui avait fait décapiter Jean-Baptiste, et c'est un peu ce qui racontait l'histoire de comment c'est arrivé, tout ça, avec sa femme et la fille de sa femme qui a comploté justement pour, on pourrait dire, avoir la tête de Jean-Baptiste, et ils l'ont eu dans la souveraineté de Dieu, naturellement, que Dieu a permis que ça arrive. Maintenant, ce que j'aimerais regarder particulièrement ce matin, avec le temps qu'on a, c'est cet aspect de l'incrédulité et comment l'incrédulité peut représenter un mur dans la vie de quelqu'un. Et peut-être même dans votre propre vie ce matin. Alors, on sait qu'on est toujours ici dans le début du ministère de Jésus, en Galilée et les environs. Alors là, Jésus est de plus en plus populaire, visite de plus en plus d'endroits, et ses disciples sont partis deux à deux pour justement aller dans d'autres villages de la Galilée. Jusqu'à maintenant, on pourrait dire que tout baigne dans l'huile pour Jésus. OK? Son enseignement est puissant, des guérisons à la carte, pratiquement à la demande, des miracles étonnants, des délivrances spectaculaires, et comme bonus, il est capable de tenir tête aux leaders religieux qui n'arrivent pas à le déstabiliser. Et là, Jésus enseigne d'une façon contraire à tous ses scribes et ses pharisiens, et les gens sont étonnés, justement, de son enseignement. Pourtant, ici, ce que Marc veut aussi nous montrer, c'est que Jésus, en plein essor de son ministère, frappe un mur. Et ça, c'est le mur de l'incrédulité. Et ce qui est étonnant, c'est que ça dit qu'à cet endroit-là, à Nazareth, pendant ce temps-là, où il y avait la majorité des gens qui avaient de la difficulté à croire en lui. Quelques-uns ont cru en lui parce qu'il a pu faire quelques miracles, mais la grande majorité ne croyait pas en lui. Ils étaient incrédules et Jésus était étonné de voir justement leur incrédulité. D'où vient l'incrédulité? Marc nous donne quelques réponses et on peut regarder aussi ailleurs dans d'autres endroits. J'aimerais ça qu'on puisse voir ce matin, mais d'où ça vient ça, l'incrédulité? On sait que ça vient dans le cœur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que quelqu'un n'est pas capable de croire en Jésus? OK? Et de lui faire confiance. Bien, moi, je pense ici que, justement, Marc, premièrement, nous montre que la trop grande familiarité des gens avec Jésus de Nazareth, le petit gars de la place, le charpentier de métier, le fils de Marie. Donc, possiblement ici, étant donné qu'ils ne disent pas le fils de Joseph, c'est fort possible que Joseph était décédé à ce moment-ci. C'est pour ça que c'est mentionné le fils de Marie, parce que c'est pas habituel qu'on dise le fils de la mère. C'est habituellement, c'est le fils du père. Alors ça, c'est une des possibilités très probables ici que, justement, Joseph était décédé. Et on voit que c'est le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon et de ses sœurs. Autrement dit, celui qui vient d'une famille modeste, un homme ordinaire et au même niveau qu'eux, il ne pouvait concevoir qu'un homme avec un tel arrière-plan familial ordinaire et un si modeste statut social, parce que on sait que sa famille était assez pauvre, puisse être le fils du Dieu vivant, le Messie promis, celui qui allait régner sur le peuple d'Israël. Autrement dit, il méprisait justement Jésus à cause de ses origines, qui étaient modestes. Donc, ce qu'il connaissait de Jésus, l'ayant vu grandir, l'ont amené à le mépriser, parce qu'il est trop ordinaire. Il est trop comme nous autres. Il n'est pas assez flamboyant ou d'un statut impressionnant. Et vous savez ce qu'il y a d'ironique dans tout cela? C'est qu'aujourd'hui, les Juifs qui pratiquent le judaïsme, naturellement, qui sont des croyants, mais dans le judaïsme, sont toujours en attente de leur Messie, parce qu'ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Mais ils ne croient pas que Jésus était le Messie parce que pour eux, le Messie, ça va être un Juif ordinaire. Imaginez-vous, ils l'ont dit là. Ça ne peut pas être Jésus parce que nous, le Messie, ça va être un Juif comme nous autres, pareil comme nous autres, ordinaire, un simple mortel. Même ils ont dit un pécheur. Là-dessus, par contre, Jésus n'aurait pas rentré. Mais ce qui est étonnant, c'est que là, maintenant, les Juifs disent, non, Jésus, il s'est dit le Messie, il s'est dit le Fils de Dieu, il s'est dit Dieu égal à Dieu. Alors, pour nous, c'est impossible, même s'il a fait des miracles, même s'il y a ci, même s'il y a ça, parce qu'il n'est pas assez ordinaire. Alors, ça, c'est un peu ironique. Alors, ces Juifs de Nazareth qui connaissaient Jésus et sa famille depuis qu'ils sont tout petits, ont une conception de Jésus qui les amène à trébucher sur son enseignement et son ministère. Ils se sont donc heurtés contre ce que Jésus disait et contre ce qu'il était capable de faire. Ils ont essentiellement fermé leur cœur parce que leur conception initiale de Jésus ne correspondait pas à ce qu'il faisait. Malgré ce qu'il faisait, malgré ce qu'il disait, malgré sa réputation, ils n'étaient pas capables de franchir cette barrière de dire « on l'a vu grandir, on sait qui il est ». Puis, il n'y a jamais rien fait d'exceptionnel, là. Il ne s'est jamais classé d'une manière. Puis en plus, il vient d'une famille qui est assez pauvre, assez ordinaire, et puis il a toujours été un petit gars ordinaire. Il n'a jamais fait quelque chose d'exceptionnel. En plus, il n'est jamais allé à l'école rabbinique, je parle ici, là, une formation théologique en bonne et due forme. Non, impossible. Donc, leur conception initiale de Jésus les a empêchés à voir qu'il était le Messie, à voir la puissance, la grandeur qu'il pouvait y avoir. Et là, ici, ce que j'ai pensé faire, c'est l'autopsie de l'incrédulité. Il y a au moins 10 choses que j'ai pu voir dans la parole de Dieu, entre autres ici dans Marc 6 et un peu dans d'autres textes. Il y a 10 choses qu'on peut remarquer à quoi ça ressemble l'incrédulité. Si on rouvre ça, puis on regarde à l'intérieur, voici ce que ça va donner. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'incrédulité a tendance à poser des questions meurtrières et se concentrer sur les aspects négatifs. Vous remarquez comment est-ce qu'ils ont posé des questions par rapport à Jésus? Les questions qu'ils ont posées, c'était comme, c'est impossible. Il ne peut pas être lui. Regarde tout ça. Non. Il est Jésus de Nazareth, un charpentier, fils de Marie, ses frères, ses sœurs. Voyons donc, c'est impossible. Voyez? Deuxième chose qu'on voit, c'est qu'ils ont eu une vision erronée de la vérité. Alors, leur conception était fausse. Troisième chose, c'est Jésus lui-même qui le dit, l'incrédulité va minimiser ou mépriser Dieu. Mépriser Jésus ici, au niveau de son caractère, ses attributs et sa bonté. Quatrième chose, elle a le pouvoir de court-circuiter la manifestation de la puissance et de la bonté de Dieu envers les hommes. Elle limite comment Dieu peut se manifester dans un endroit. On voit ça dans les versets 5 et 6. Jésus n'a pas pu faire là beaucoup de miracles à cause de cela. Cinquièmement, elle est une maladie du cœur qui est contagieuse. Avez-vous remarqué comment est-ce qu'ils étaient en train d'interagir ensemble en se posant des questions, puis là, ils étaient en train justement de s'influencer les uns les autres. Ben oui, c'est bien trop vrai. Ah, ben oui, c'est vrai. Non, c'est impossible, ça ne peut pas être lui. Non. Oublie ça. Alors, ils se sont influencés les uns les autres pour justement arriver en grande majorité à la même conclusion. Sixièmement, certains ont une plus grande résistance que d'autres au niveau de l'incrédulité. Autrement dit, pour certains, l'incrédulité, elle est beaucoup plus ancrée dans le cœur. On voit ça dans les versets 5, des versets 7 à 13. Septièmement, ce qu'on peut voir, et là on le voit plus loin, dans Marc, au chapitre 16, verset 14, « Tous peuvent l'attraper un jour ou l'autre, même les croyants les plus fervents. » Parce qu'ici, dans Marc 16, et on l'a aussi dans Luc 24, 11, on voit que c'est des disciples qui étaient incrédules. Fait qu'on peut tous avoir à lutter avec l'incrédulité. Même ceux qui ont vu les miracles de Jésus, même ceux qui ont vu Jésus à l'œuvre, Jésus en train de faire des choses extraordinaires, calmer la tempête, ou ainsi de suite, voir des guérisons des gens, être libérés de démons, personne ne pouvait s'en occuper, puis pourtant, ils luttent encore avec l'incrédulité. Donc, on est exempt de ça. Maintenant, certains en guériront un jour. Paul utilise Romains, chapitre 11, verset 12, en parlant que Israël a été coupé de l'olivier naturel. Et là, les païens ont été greffés. Mais un jour, ils vont se repentir et là, ils vont croire parce qu'ils ont été enlevés à cause de leur incrédulité. Mais un jour, lorsqu'ils auront la foi, ils vont être ramenés dans le plan de Dieu. Donc, on peut guérir de l'incrédulité. Paul lui dit dans 1 Timothée 1, 13 qu'il était incrédule à cause de son ignorance. Donc, parfois, l'incrédulité est le fruit de l'ignorance. Peut-être ici, pourquoi Jésus était tellement étonné, c'est qu'il savait qu'ils n'étaient pas ignorants, ceux de Nazareth. Et en plus, il connaissait très bien la portée de son ministère et de toutes ses œuvres qu'il avait faites. Mais elle peut parfois être le fruit de l'ignorance. Finalement, dans Hébreux 3, 18 à 19, on voit que l'incrédulité peut endurcir le cœur au point de le fermer à tout jamais. et d'avoir pas accès à cette relation avec Dieu et son repos qu'il promet. Et ça, c'est probablement la chose la plus triste qui peut arriver. C'est que l'incrédulité peut être tellement ancrée dans le cœur que là, la personne a fermé son cœur. Et ça, c'est le danger que courent ceux qui entendent l'Évangile et remettent à demain, résistent à Dieu. Et là, à un moment donné, malheureusement, c'est comme s'il n'y a plus de possibilité que le cœur s'ouvre et que là, ils puissent être guéris de cette incrédulité. La chaîne ABC a fait un reportage sur un livre qui présente les différentes perceptions que les gens ont de Dieu aux États-Unis. Les auteurs du livre, qui s'appelle « America's Four Gods », alors « Les quatre dieux de l'Amérique », sont deux professeurs de l'université de Baylor aux États-Unis. Ils sont arrivés à la conclusion que 9 Américains sur 10 croient en Dieu, mais que tous n'ont pas la même perception ou la même conception de Dieu. En fait, ces Américains qui croient en Dieu ont 4 perceptions ou 4 concepts qui définissent leur vision de Dieu. Maintenant, ils ont aussi constaté, ça c'est intéressant, que notre perception de Dieu a son origine dans l'enfance et qu'elle a des répercussions sur notre façon de comprendre le monde dans lequel on vit, notre manière de vivre dans ce monde et nos valeurs fondamentales. Donc, autrement dit, ma vision de Dieu a des répercussions très importantes dans ma vie quotidienne et à plusieurs niveaux de ma vie quotidienne. Voici les 4 perceptions de Dieu ou les 4 façons de voir Dieu qu'ils ont découvert aux États-Unis. C'est intéressant parce que, comme je dis tantôt, ça va avoir une répercussion sur notre foi, sur notre façon d'entrer en relation avec Dieu ou notre façon de ne pas entrer en relation avec Dieu. La première chose, la plus importante, 28% des répondants ont dit qu'ils croyaient en un Dieu qui était un être autoritaire. Ce que ça voulait dire, c'est que ce Dieu-là, il est présent, puis il est très impliqué dans les affaires de ce monde. Mais il est plutôt punitif. Il est porté au jugement. Ceux qui ont cette conception de Dieu sont majoritairement des hommes et ont tendance à venir d'un milieu évangélique conservateur. Ils voient les catastrophes naturelles, comme l'ouragan Katrina, par exemple, comme un jugement de Dieu envers l'Amérique. Un deuxième groupe, 24% cette fois-ci, croit en un être qui est distant et indifférent. Ces gens-là croient que Dieu a mis en place l'univers et ensuite il s'est retiré en nous laissant à nous-mêmes. Un peu comme s'il avait dit quelque chose comme ceci, OK? Je vous ai mis sur la terre, maintenant arrangez-vous tout seul. Ce n'est pas à moi de gérer vos vies ou de dicter ce qui va se passer dans ce monde. Donc, c'est un être distant et indifférent. Ceux qui ont cette conception de Dieu ont tendance à être ouverts à la spiritualité sans être religieux. Ils se tournent davantage vers la science pour expliquer leur raison d'être sur la terre. Et il partage le point de vue de Benjamin Franklin qui a dit « Dieu, cet être suprême et parfait, ne s'intéresse aucunement de cette chose aussi insignifiante qu'est l'homme. » Autrement dit, Dieu n'a pas de temps à perdre avec nous autres. Alors voyez-vous comment ça peut affecter notre vie, ça, si c'est ma façon de concevoir que Dieu, dans le fond, est un être distant et indifférent? Tout comme s'il est un être autoritaire. Troisième perception que les gens ont, les Américains, 21% croient que Dieu est un être sévère. Il ne s'implique pas dans les affaires quotidiennes de ce monde, mais il jugera un jour les hommes après leur mort. Autrement dit, il n'intervient pas sur la terre, mais un jour, on va avoir affaire à lui. Ceux qui ont cette perception de Dieu sont majoritairement des personnes d'origine afro-américaine ou des personnes ayant un faible revenu et un niveau de scolarité moins élevé. Finalement, le dernier groupe, 22 % croient que Dieu est un être bienveillant. Il est bon, généreux et très impliqué envers sa création. Ceux qui ont cette perception de Dieu sont majoritairement des chrétiens. Des femmes et ont tendance à venir d'un milieu évangélique, donc d'être chrétienne. Ce qui veut dire, pensez-y là, si vous aviez l'un ou l'autre, ou un mélange de l'un ou de deux dans votre façon de comprendre Dieu, mais ici, 73 % des gens en Amérique, aux États-Unis, ont une perception négative, je dirais même erronée de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, chaque culture, chaque société, chaque religion, chaque famille, chaque individu a sa propre conception de Dieu. Je veux dire, elle est unique aussi. Malheureusement, beaucoup n'auront jamais la bénédiction de connaître Dieu sous son vrai visage ou de goûter à son amour à cause d'une mauvaise perception de Dieu qui leur colle à la peau. Dans Marc 6, on voit qu'il y a quatre façons de voir Jésus. Il y en avait quatre en Amérique, il y en a quatre ici parmi ces Juifs et non-Juifs, parce qu'Hérode n'était pas un Juif. Mais ce qu'on voit dans Marc 6, c'est que ceux de Nazareth disaient de Jésus, c'est un simple charpentier, fils de Marie, un homme ordinaire, famille ordinaire, un petit gars de la place qui pète de la broue. Hein? Et ils le méprisaient. Ça a été ça la conclusion. Ils l'ont méprisé. Hérode, lui, disait, c'est Jean-Baptiste ressuscité. Donc, lui, il était indifférent face à Jésus. Il essayait plutôt de comprendre à sa façon qui pouvait être. Donc, il n'a pas considéré qu'il pouvait être le Messie. Il a juste dit, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Puis, il s'en vient me faire du trouble, dans un sens, parce qu'il était superstitieux. D'autres, ça dit que, non, c'est le prophète Élie qui est de retour. Donc, Jésus, c'est pas le Messie. C'est quelqu'un d'autre, c'est un prophète, c'est le prophète Élie. Et encore, on voit que certains autres disaient, c'est un prophète parmi tant d'autres, un prophète peut-être comme Moïse dans Deutéronome 18-15 qui disait qu'un jour il y aurait un prophète comme lui qui viendrait, c'est peut-être ça. Ou encore un prophète de la lignée interrompue, des prophètes de l'Ancien Testament. Et là, tout à coup, il y a un prophète qui apparaît, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, puis tiens, Jésus en est un. Du même calibre de ceux de l'Ancien Testament. Mais est-ce qu'il est le Messie? Non. Non. Maintenant, la question qui tue ce matin, quel espoir y a-t-il pour quelqu'un qui lutte avec l'incrédulité? Est-ce qu'il y en a? Bien entendu, les incrédules n'ont pas tous la même histoire. Ça, c'est pas ça de la chanson, là, mais les gens heureux. Mais les incrédules n'ont pas tous la même histoire ou la même dureté de cœur. Mais Dieu est capable d'utiliser la moindre petite ouverture dans un cœur, la moindre petite lumière d'espoir pour rencontrer cette personne-là dans son incrédulité, peu importe ma perception que j'ai de Dieu. Il y a une histoire dans la parole de Dieu, justement dans l'Évangile de Marc, au chapitre 9, versets 17 à 24, qui témoigne de cela. C'est le père incrédule qui voulait croire. Je l'ai appelé un HI+, un HI+, un homme incrédule plus ouvert d'esprit. Ça dit ceci, « Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi! » On le lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Regardez Jésus ce qu'il dit. Jésus lui dit, « Si tu peux. » Est-ce qu'il y a de la foi là-dedans? Hein? Peux-tu répéter? « Si je peux. » Et là, Jésus rajoute ceci, « Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le Père s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus a détecté dans le cœur de ce père qui avait de l'incrédulité. C'était un homme incrédule plus ouvert d'esprit. OK? Il y avait une ouverture dans son cœur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est intervenu. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour des hommes incrédules, moins ouverts d'esprit? J'ai reçu un texte cette semaine. Je trouvais que ça allait tellement bien avec ce matin. C'est l'histoire vraie d'un homme, un HI-, un HI-. C'est-à-dire un homme qui, selon les dires de sa famille, était mauvais et d'un sale caractère. Donc, il était moins ouvert d'esprit. Cette histoire a été vécue par une chrétienne qui s'est laissée diriger par le Saint-Esprit pour aller au chevet d'un mourant. Le texte s'intitule « Dans la chambre de la mort ». On lit ceci. En 2004, j'allais régulièrement visiter mon père qui avait une maladie proche parent de la maladie d'Alzheimer. Sur la fin de sa vie, je m'étais lié d'affection avec la famille Gauthier. Leur père avait été hospitalisé dans la même chambre que mon père. Je savais qu'un événement se préparait lorsque je suis arrivé à l'étage de l'hôpital ce soir-là. C'était palpable. En arrivant, j'ai rencontré Mme Gauthier et sa fille qui pleuraient dans le passage. Plutôt déconcerté, j'ai demandé, « Mais qu'est-ce qui se passe? » Ils ont mis mon mari dans cette chambre aujourd'hui et ils nous ont demandé de le veiller jour et nuit, me disait-elle en pleurant. Je comprenais que c'était la fin. J'avais aussi côtoyé ce vieil homme depuis plus de 2 mois. La maladie l'avait rendu très amer. Je m'étais habitué à entendre ses paroles dures, mais aussi à voir ses réveils très brutaux. Il criait et blasphémait lorsqu'un préposé ou même un membre de sa famille le réveillait. Il fallait sortir de sa chambre le temps qu'il se calme un peu. Ses filles nous confiaient comment il était mauvais. Il avait un sale caractère. Mais ce soir-là, il était tranquille. Lors des visites terminées, je suis passé devant sa chambre et j'étais étonné de le voir seul. Je marchais vers la sortie avec mon beau-frère et je l'entendais vaguement me raconter un épisode qui aurait pu être fatal pour un membre de ma famille. Mais Dieu poussait très fort son désir sur mon cœur. Toutes mes pensées s'envolaient vers le vieillard mourant. Quand je suis arrivé au bas de l'ascenseur, j'ai dit à mon beau-frère, Je n'entends pas ce que tu me dis. Monsieur Gauthier est seul dans sa chambre et je ne lui ai pas parlé de Jésus. Mon beau-frère me répond, vas-y, moi je vais prier. Je sentais l'appel de Dieu si fort que rien dans ce monde n'aurait pu me faire franchir la sortie ce soir-là. Et je pensais en remontant, il dort. Je vais peut-être planer dans le passage si je le réveille. Mais étrangement, la paix de Dieu me couvrait. Je suis entré dans cette chambre obscure, il dormait. J'ai mis ma main sur son épaule et je lui ai rappelé qui j'étais. Il s'est réveillé, tout calme. Monsieur Gauthier, j'aimerais vous parler de Jésus. Il me regardait simplement. Je lui parlais doucement de l'œuvre de rédemption de Jésus à la croix, de son pardon pour nos péchés. Et son regard devenait celui d'un petit agneau. Il me dit, « Je vais mourir. » Je n'ai rien ajouté. Lorsque je lui ai demandé, « Avez-vous déjà péché? » Il m'a répondu le plus sérieusement, « J'ai commis des péchés graves. » Je lui ai demandé s'il voulait demander à Jésus de pardonner ses péchés. Il m'a répondu, « Oui. » J'étais tellement surprise de voir ses yeux doux, comme un petit agneau. Je ne les avais jamais vus comme ça. Je me suis courbé la tête et j'ai débuté ma prière ainsi. Seigneur Jésus, d'un élan, je l'ai entendu poursuivre tout seul. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. J'étais si étonné de le voir me devancer ainsi, alors j'ai poursuivi, pardon pour mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur. Et lorsque je mourrai, j'irai en ta présence. C'était un moment très solennel. Et M. Gauthier répétait chacune de mes paroles avec beaucoup d'intensité. Lorsqu'on a terminé de prier, il a lancé spontanément, « Merci Seigneur, merci Seigneur! » Moi encore, plus étonné, j'essayais de le suivre. « Oui, merci Seigneur! » Je lui parlais de mon Sauveur. Je lisais les paroles de Dieu sur le salut éternel et un chant est monté sur mon cœur. « Oh, prends mon âme. » Connaissez ce chant? « Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Maître, vise-toi, sois seul mon maître, toi, mon vain roi. » Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Sentant ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Lorsque je sentais pour la deuxième fois, il a joint sa voix à la mienne. Il chantait avec moi, bien sûr avec quelques secondes d'intervalle pour me suivre, mais ce moment était rempli d'une profondeur surprenante. Il a remercié encore à haute voix le Seigneur. « Merci Seigneur, merci Seigneur! » Sans même que je l'y conduise, un second chant est venu sur mon cœur et je lui ai chanté « Il vit! » il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Par la foi, je sais qu'il vit en moi.
Ah, j'aurais aimé ça être dans cette chambre-là. Hein? Monsieur Gauthier a terminé en me disant, « Je suis en paix. » Après un certain temps, il m'a dit, « Je suis fatigué. » Je lui ai dit, « Je vous reverrai au ciel, M. Gauthier. » Dormez dans la paix du Seigneur. Je suis reparti chez moi en sachant que ce soir-là, rien dans ce monde n'aurait pu empêcher Dieu d'accomplir son œuvre. Pas même moi. Environ 30 heures plus tard, M. Gauthier rendait l'âme. Il se présentait devant Dieu, possiblement les mains vides d'œuvre, mais l'âme revêtue de la pleine justice de Christ. Et le texte est signé Lorraine Hamilton. Elle est ici ce matin avec nous. Je vais vous inviter à prier avec moi ce matin pour terminer. Le Seigneur nous invite ce matin à venir à lui tel que l'on est et tel que notre cœur est. Avez-vous de la difficulté à croire qu'il existe ce matin? Qu'il s'intéresse à vous? Qu'il puisse faire quelque chose pour votre situation? Aimeriez-vous qu'il vienne au secours de votre incrédulité? Dites-le lui. Ouvrez-lui votre cœur ce matin. Mettez quatre sur table. Êtes-vous en colère contre lui parce que vous avez l'impression qu'il vous a laissé tomber, qu'il fait la sourde oreille ou qu'il vous a oublié? Venez à lui ce matin. Dites-lui ce matin, « Seigneur, est-ce que tu m'entends? » Es-tu là pour moi? Est-ce que tu vois ma misère? Ne ressens-tu rien par rapport à ce que je vis? Peux-tu faire quelque chose pour moi, pour soulager ma peine, ma souffrance? Seigneur Jésus, peux-tu intervenir dans ma vie, dans mes circonstances? Ou encore mettre la paix dans mon cœur? Est-ce que je peux m'approcher de toi ce matin? Comment est-ce que je pourrais m'approcher de toi? Est-ce que tu peux me le montrer, Seigneur? Te laisser cet homme venir vers toi. Est-ce que je peux venir vers toi moi aussi, tel que je suis? Peux-tu parler à mon cœur, Jésus? Tout comme tu l'as fait avec cet homme mauvais au caractère sale, peux-tu m'aider à placer ma confiance en toi? Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi ce matin. Sans toi, Seigneur, j'y arriverai pas. Est-ce que tu peux me prendre la main ce matin? Je me tourne vers toi, Seigneur, tel que je suis. Je t'invite à me rencontrer. Merci, Seigneur Jésus. Merci d'entendre ma prière ce matin. Amen.